France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2026 dans un monde encore en ébullition ce midi. Après le coup de force américain au Venezuela, Donald Trump a lui-même partagé la photo du président déchu Nicolas Maduro menotté. Et les États-Unis ont annoncé leur intention de diriger la transition du pays et d'exploiter ses vastes réserves de pétrole. Que dire du droit international? Que dire de cette stratégie de Washington de domination énergétique? Nous allons en parler ce midi avec notre invité. C'est le patron de Bercy. Il est aussi ministre de la souveraineté énergétique. Il sera question de nos factures d'électricité et de la légère baisse qui vient d'être annoncée. Du budget également, toujours en suspens. Qu'est-ce qui permet au ministre de l'économie de penser qu'il existe en janvier un chemin pour adopter le PLF que le Parlement n'a pas trouvé en décembre? Roland Lescure est en direct. C'est sur France Inter, sur France Info, le canal 16 de la télévision. Une émission en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble pour poser toutes les questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Roland Lescure.
Bonjour, merci à toutes les trois, bonne année à toutes les trois et à vos auditeurs et merci de votre invitation.
Merci de l'avoir accepté. Je vais donner votre titre, un titre intégral parce que ça va nous aider à savoir sur quel périmètre très large on va vous interviewer. Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et énergétique et numérique.
Voilà.
Tout est dit. À mes côtés sur ce plateau pour vous interviewer, je salue donc Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour et bonne année à tous.
Tout à l'heure, vous nous ferez le portrait de Roland Lescure.
Oui, on va évoquer votre parcours, alors parfois sinueux, et un brin audacieux du Canada à la France, de la gauche à Emmanuel Macron.
Je salue également Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous et à tous et bonne année.
Vers 12h50 avec vous, une question à l'horizon qui sera sans aucun doute dans le grand débat de la présidentielle de 2027.
La question du pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro un des Français et ça sert de carburant pour le Rassemblement national. Comment y répondre de façon crédible? Quel débat ouvrir pour 2027?
Ça sera notre séquence 2027. Mais d'abord, Roland Lescure, 5 minutes d'actualité entre quatre yeux. Vous qui êtes Français et Canadien, vous qui avez toujours un pied sur le continent américain, les États-Unis ont donc mis le Venezuela sous tutelle. Ils ont capturé et emmené de force son dirigeant, Nicolas Maduro, et son épouse. Est-ce que vous avez été surpris?
Oui, j'ai été surpris, évidemment. Je n'ai pas été prévenu de cet événement. Peut-être deux mots d'abord du Venezuela, hein, que je connais un peu, parce qu'il s'avère que j'y suis passé, dans le cadre de mes activités professionnelles, il y a 20 ans. Donc à l'époque, c'était le Venezuela d'Hugo Chavez, c'était pas celui de Maduro. Et je peux vous dire que déjà à l'époque, j'avais été frappé par l'extrême pauvreté d'un pays qui pourtant avait toutes les raisons d'être riche. Première réserve pétrolière du monde, une dictature extrêmement forte, une impossibilité quelconque d'exprimer toute opinion en opposition, qu'elle soit, mais surtout une pauvreté majeure et une caste mineure qui captait toute la rente.
Bon, ça, c'est Chavez.
Toutes les recettes.
Et ce que vous dites, c'est que Maduro, c'était pareil?
Maduro, c'était Chavez Empire. Je veux dire, ça s'est dégradé pendant 20 ans. Le Venezuela reste un pays très pauvre, alors qu'il pourrait être très riche. Et en plus, une négation totale des valeurs démocratiques, puisque vous le savez, il y a 18 mois, on a eu une élection présidentielle, on a eu un président élu, et le président sortant, Nicolas Maduro, a remis en question les résultats, s'est finalement réinstallé au pouvoir et a nié les résultats des élections démocratiques. Donc, voilà.
Disant cela, Roland Lescure, est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement Donald Trump il a bien fait?
Non, je vais dire deux choses. La première, et le président de la République l'a dit dès hier, on peut se réjouir de la fin d'un dictateur. On peut s'en réjouir, on a le droit. Et on peut aussi évidemment regretter la manière, regretter la méthode. Et ça aussi, on l'a fait dès hier, par la bouche de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères.
Mais alors ça, c'est intéressant, permettez-moi de vous interrompre. Jean-Noël Barrot l'a fait, en effet, sur le droit international. En revanche, Emmanuel Macron, pas du tout. Il ne dit pas que le droit international n'a pas été respecté. Pourtant, par exemple, le secrétaire général de l'ONU, lui, il dit que ça n'a pas été respecté, il s'en inquiète. Et donc, La réaction d'Emmanuel Macron a provoqué l'indignation à gauche, notamment, mais pas seulement. Je vous cite Olivier Faure, notre président ne peut pas se comporter comme un simple porte-parole de la Maison-Blanche. LFI et le Parti communiste sont donc sur la même tonalité. Le président du RN, Jordan Bardella, souligne que la souveraineté des États ne peut pas être à géométrie variable. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne parle pas de droit international ?
Non, mais la communication du président de la République, d'abord, elle est évidemment complémentaire de celle qui prévalait quelques heures auparavant dans la bouche du ministre des Affaires étrangères. Vous savez bien que l'Élysée et le Quai d'Orsay travaillent en étroite coopération. Et elle vient compléter.
C'est l'Élysée qui a la préséance, qui imprime beaucoup plus sur la scène internationale que Jean-Noël Barrot.
Mais évidemment, la voix de la France s'exprime à la fois par le Quai d'Orsay et Jean-Noël Barrot, qui exprime ses doutes sur l'action et son attachement au respect du droit international. Et elle est complétée par une parole du président de la République, j'allais dire, qui se projette et qui affirme deux choses très importantes, y compris vis-à-vis des paroles qu'on a eues depuis de la part du président américain. C'est que c'est la démocratie qui doit prévaloir, que c'est la voix du peuple vénézuélien qui doit s'affirmer dans la suite, y compris d'ailleurs en passant sur la gestion des réserves pétrolières qui appartiennent au peuple vénézuélien.
Donc ce n'est pas l'Élysée qui est gênée d'attaquer frontalement Donald Trump et sa méthode.
Je vois bien la volonté qu'ont certains, et vous les avez cités, d'aller chercher des polémiques là où je pense qu'on devrait tous être rassemblés face à un ordre mondial qui est en total bouleversement. Je pense qu'on va y revenir, parce que si avec le Venezuela, évidemment, j'allais dire ça serait simple, peut-être pas, mais au moins ça serait cantonné, face à un ordre mondial bouleversé. Et je pense que c'est une des leçons aussi d'ailleurs de ce qui s'est passé hier. L'Europe et la France doivent s'affirmer comme des puissances qui pèsent. Nous sommes attachés, c'est important, au respect du droit international. Jean-Noël Barrot l'a dit et je vous le redis aujourd'hui. Mais face à des coups de force, je dirais, qui ont tendance à être un peu permanents, il faut à la fois rappeler son attachement au droit international, mais se préparer à un monde dans lequel c'est la force qui tend à prévaloir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois préparer le pire et continuer à défendre le meilleur. Je sais que c'est compliqué, mais le monde est compliqué. Et être simpliste en disant c'est blanc ou c'est noir, ça résout pas les problèmes. Donc il faut à la fois qu'on puisse s'affirmer comme une puissance avec laquelle on se doit de négocier sur l'Ukraine, sur l'avenir du Venezuela, sur évidemment l'avenir de l'Union européenne, sur l'avenir de l'OTAN, mais on doit aussi toujours affirmer notre volonté de respecter le droit international, parce que le non-recours à la violence, c'est un principe.
Certains pensent que peut-être la boîte de Pandore est ouverte. Ils pensent au désir d'expansion d'autres puissances, de Pékin, de Moscou, on pense à Taïwan, on pense à l'Ukraine, on pense même encore au Groenland pour Washington. Ils ont tort de s'inquiéter ?
Non, on n'a pas tort de s'inquiéter aujourd'hui face à un monde qui est clairement inquiétant. Ensuite, il y a soit la diplomatie, j'allais dire du communiqué, on s'insurge, on s'enflamme, et puis on passe à autre chose, parce qu'au fond, on n'est pas capable d'agir. Soit on se donne les moyens d'agir. Donc on peut à la fois regretter des actions, et la France le fait, mais préparer une capacité à agir et à intervenir.
Il ne regrette pas du tout l'action.
Mettre un coin entre l'Élysée et le Quai d'Orsay aujourd'hui, vous le savez, la voix de la France, c'est l'Élysée. Et c'est le Quai d'Orsay qui travaille évidemment en étroite collaboration. Imaginez. Non, d'ailleurs, il a pris acte de l'événement. Et évidemment, cette communication, je dirais, elle est cohérente. Et elle s'inscrit dans une dimension temporelle où il faut à la fois, et c'est ce que Jean-Noël Barrot fait très tôt hier, regretter l'événement, se réjouir quand même de la fin d'indicateur. Et j'allais dire, très vite passer à la suite, parce que elle va être compliquée la suite. Elle va être compliquée quand on entend les mots du président américain hier, cette nuit. On se dit que ça va être compliqué et que la France, elle doit avoir de l'impact. Moi, je suis sensible. Si vous voulez, juste, je simplifie.
Allez-y.
Entre l'impuissance du commentaire et la puissance de l'action, je préférerais toujours la puissance de l'action. Et pour être capable d'agir, il faut s'en donner les moyens. Et c'est aujourd'hui le défi majeur, on parlera du budget tout à l'heure, de la France et de l'Europe, face à un monde qui est, je pense, au bord d'un basculement.
Et vous trouvez qu'on est très actif quand, par exemple, Washington, le 23 décembre, annonce une interdiction de séjour contre 5 personnalités européennes engagées pour une stricte régulation de la tech, dont l'ancien commissaire Thierry Breton. Vous trouvez que Paris et Bruxelles ont réagi assez fort, là ?
Oui, on a réagi d'abord.
Il y a des actions ? Moi, je n'ai pas vu de sanctions.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les États-Unis font ça ? c'est parce qu'on a fait des choses qui leur déplaisent. On a frappé juste. Quand la Commission européenne met une amende de 120 millions d'euros à X, parce qu'en gros, ils ne respectent pas la certification de ce qu'on appelle des comptes certifiés. Donc vous pouvez être n'importe qui, payer X et vous faire passer pour n'importe quoi. Ça, c'est interdit. Et c'est interdit parce que on a adopté une réglementation qu'a portée justement Thierry Breton. Et donc, en pointant du doigt Thierry Breton, en fait, ils reconnaissent qu'on a frappé fort. Et ce que je peux vous dire, c'est notre première réaction face à ces événements, c'est qu'on ne reculera pas. Et qu'on continuera à appliquer une réglementation européenne qui est conforme aux valeurs européennes et qui, oui, contrevient à un certain nombre de convictions américaines aujourd'hui. Ça fait 250 ans que les États-Unis sont indépendants, ça fait 250 ans qu'on est amis. Je peux vous dire qu'à des amis, on se parle franchement. Moi, je serai aux États-Unis dans quelques jours, je vais rencontrer mon alter ego, Scott Bessent, et je vais lui parler de ça. Je vais évidemment lui demander des explications sur cette mesure que je regrette, mais lui rappeler aussi que ce qu'on a adopté en Europe, ben oui, c'est différent de la manière dont les États-Unis voient la soi-disant liberté d'expression qui conduit à raconter n'importe quoi.
Encore une question, si vous permettez. Sur le Venezuela, et on va ouvrir la discussion, c'est donc le premier producteur mondial de pétrole qui prend le contrôle des plus grandes réserves pétrolières de la planète. C'est le Venezuela. C'est la stratégie de domination énergétique de Washington. Vous êtes ministre de la souveraineté énergétique. Ça, c'est inquiétant.
Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, ça fait déjà un certain nombre d'années que je le dis, l'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre industrielle, c'est le nerf de la guerre de la décarbonation, à laquelle je crois et à laquelle on doit faire. Donc, oui, évidemment, notre capacité à investir massivement, et là encore pour ça, il faut qu'on ait un budget, il faut qu'on passe à autre chose, dans l'énergie nucléaire, dans les énergies renouvelables, de manière à affirmer, en fait, l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. Face à un monde où, vous l'avez dit, évidemment, la lutte contre pour les ressources énergétiques risque d'être assez forte. Ça ne m'empêche pas de rajouter que les ressources du Venezuela, elles appartiennent au peuple vénézuélien. Et c'est le peuple du Venezuela qui doit, je dirais, décider de manière souveraine comment il les utilise et avec qui.
Allez, on ouvre la discussion, une question de Françoise Fressoz.
Sur le Venezuela, est-ce qu'au fond, la réaction tout en retenue d'Emmanuel Macron n'est-elle pas liée à la gestion du dossier ukrainien ? On sait qu'il y a des négociations actuellement, on sait que peut-être l'Ukraine n'est pas en position de force, ni l'Europe. Est-ce que c'est, au fond, ne pas indisposer les États-Unis pour éviter le pire, c'est-à-dire un accord entre la Russie et les États-Unis qui se ferait sur le dos de l'Ukraine ?
En tout cas, ce qui est vrai, c'est que cette dimension-là, des rapports internationaux aujourd'hui, elle est essentielle, elle est même existentielle. Donc le fait qu'on garde le contact, qu'on soit capable de dialoguer de manière franche et parfois difficile avec les États-Unis sur ce dossier ukrainien, il est essentiel. Vous savez que mardi, on aura à Paris une réunion de ce qu'on appelle les coalitions des volontaires, donc les pays européens qui sont en soutien de l'Ukraine face à la Russie. L'objet, c'est de mettre en place des conditions de sécurité durable pour l'Ukraine face à un potentiel accord de paix. Tout ça, c'est fondamental. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas l'injurier. Donc, il faut à la fois rappeler nos convictions, être capable d'influer le cours des choses, mais de garder, je dirais, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir, une capacité d'action. Parce que le risque de la diplomatie des mots, c'est qu'elle empêche les actions. Moi, je suis convaincu que la France, aujourd'hui, elle est à la fois capable de s'exprimer et d'agir. Contrairement, d'ailleurs, à ce que j'ai entendu beaucoup, la France, elle a eu beaucoup d'impact sur le monde ces derniers mois. Moi, j'étais à New York quand le président de la République a annoncé que la France souhaitait, avec d'autres États, reconnaître la Palestine. Il y a eu une ovation debout à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était jamais arrivé, en tout cas pas depuis des décennies. La France, en Ukraine, elle a beaucoup agi. J'y ai pris ma part en négociant un mode de financement pour qu'on puisse continuer à aider l'Ukraine financièrement tout au long de l'année 2026. Et on l'a fait en européen et la France a joué son rôle. Donc oui, la diplomatie, c'est compliqué.
Roland Lescure,
mais
retour.
L'action, c'est essentiel.
Retour en France avec cette question d'Alix Bouillaguet.
Vous avez annoncé que les factures de l'électricité vont baisser à partir du 1er février. C'est ce que vous avez demandé le Premier ministre. Vous avez donc trouvé une solution pour que ces factures puissent baisser. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'ampleur ? Ce sera combien ? Ce sera quand ? Et est-ce que ce sera surtout suffisant ?
Alors déjà, c'est un bon début. Donc ce que j'annonce, c'est la baisse de ce qu'on appelle la contribution tarifaire d'acheminement. Quand vous regardez votre facture, il y a une ligne qui s'appelle contribution tarifaire d'acheminement, qui est un prélèvement obligatoire sur les factures sur l'abonnement. donc sur ce que vous payez quand vous souscrivez un abonnement. Ensuite, il y a la facture qui poursuit en fonction de la consommation. Et sur cet abonnement, on va mettre en place une baisse de 5%. Donc c'est quelques euros, mais c'est quand même quelques euros bienvenus. Ça va entre une dizaine d'euros par an pour un ménage, je dirais, de base, jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour un boulanger qui consomme beaucoup d'électricité.
Est-ce que c'est suffisant pour les Français ? Est-ce quelques dizaines d'euros, un euro par mois ?
Non, mais c'est un bon début. Je veux bien... On a aujourd'hui une situation budgétaire qu'on connaît, qui est difficile. On a un ministre qui, en réponse à une commande du Premier ministre, propose une solution qui est disponible maintenant. Efficace, simple, lisible.
Mais on imagine que cette taxe servait à quelque chose ? Elle servait à quoi ?
Elle servait,
elle abondait la caisse de retraite des électriciens et des gaziers. Donc,
effectivement,
ça veut dire que comment ça va se passer pour eux ?
Alors, cette caisse, elle est aujourd'hui excédentaire. Et donc, on a effectivement décidé de baisser les recettes, de manière à ce qu'on garde, évidemment, continue à payer les retraites des électriciens et des gaziers, mais qu'on puisse utiliser cet argent. C'est 550 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent.
Et donc ça ne va pas être dans le budget. Ça n'est
non,
pas prélevé,
c'est pour ça que moi j'ai proposé aux...
C'est pris aux électriciens gaziers.
Ça arrive tout de suite. En fait, ce sera en place le 1er février parce qu'il faut consulter un certain nombre d'instances. Mais on l'annonce aujourd'hui. J'allais dire, avant même qu'on ait un budget, il y aura dans le cadre du budget des débats. Il y a des amendements qui ont été portés au Sénat sur les assises, électricité, gaz, etc. Et tout ça va se poursuivre. Mais avant même tout ça, avant même qu'on mette en place un grand plan d'électrification, qui est le nerf de la guerre, je le disais tout à l'heure, qu'on mette en place la programmation pluriannuelle de l'énergie, on fait un premier geste pour montrer aux Françaises et aux Français qu'on a envie de les aider.
Mais en même temps, Roland Lescure, moi j'ai du mal à comprendre parce qu'en août dernier, vous avez augmenté la TVA sur cette fameuse contribution. Elle est passée de 5,5% à 20%. Ce que vous faites là, ça compense
Non, alors ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on s'est mis en conformité avec le droit européen. Donc il fallait le faire, on l'a fait.
Vous l'avez fait à la hausse, hein, vous auriez pu décider d'aligner à 5,5% et pas à 20%.
Moi je suis très prudent sur les formules magiques qui consistent à dire baissons la TVA sur tout et tout ira bien. Parce que d'abord, la TVA, ça s'est fait dans un certain nombre de secteurs. On a vu que ça s'est très rarement retrouvé dans la facture. Alors que là, la CTA, comme on dit, c'est direct, j'allais dire, du producteur au consommateur. C'est sur la facture directe.
La contribution d'acheminement.
D'acheminement. La TVA, ça se retrouve dans plein d'intermédiaires qui souvent se servent au passage. Et puis surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Et on a un budget à boucler. Donc ça, c'est hors budget. La TVA, si vous la baissez, il faut aller trouver de l'argent en face dans le budget.
On va parler dans une seconde du budget. Une question de Françoise ?
Alors le prix dépend aussi d'une question plus stratégique qui est la feuille de route énergétique de la France et notamment le mix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Le Premier ministre avait dit... À Noël, on vous présentera cette feuille de route. Et puis, on a entendu début 2026. Est-ce que vous pouvez nous donner une date pour la présentation de ce plan ?
Bon, d'abord, c'est essentiel ce que vous venez de dire. On a aujourd'hui une électricité décarbonée parmi les moins chères d'Europe parce qu'il y a 50 ans, nos prédécesseurs ont décidé de lancer des grands programmes d'investissement. Et donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, c'est exactement ça.
Sauf que ça tarde.
Non, mais je reconnais que ça tarde. Et j'en suis un peu impatient, parce que j'étais ministre de l'Industrie et de l'Énergie il y a 2 ans, j'étais prêt à la sortir. Il y a eu un peu d'instabilité politique, ça ne vous a pas échappé, qui nous a empêchés de le faire. Mais c'est important quand même. Donc, on veut préciser à quoi va ressembler la France énergétique des décennies qui viennent. Et on a une étude très importante de RTE, qui est sortie juste avant Noël, qui montre qu'aujourd'hui, on consomme moins d'électricité que ce qu'on pensait qu'on consommerait. Donc on n'est pas encore au rendez-vous de l'électrification. Et ça nous conduit à revoir un peu les programmes d'investissement. Et donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard par rapport à la fin décembre.
Mais là, on n'a toujours pas de date alors.
Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on souhaite la sortir très vite en début d'année. La question que je me pose, je vais être très transparent avec vous, c'est est-ce qu'on peut lancer des grands programmes d'investissement dans le nucléaire ou dans l'éolien marin alors qu'on n'a pas de budget. Donc voilà, la question que je me pose, et je ferai une recommandation au Premier ministre dans ce sens, c'est, au fond, est-ce qu'on se débarrasse du budget ? Je le dis comme ça, parce qu'au fond, ça a assez duré, maintenant il faut qu'on avance, je pense qu'on peut le faire, et qu'on passe à autre chose ensuite, la PPE, et donc ça veut dire plutôt fin janvier, début février, ou est-ce qu'on le fait avant ? En tout cas, on est prêt, j'ai beaucoup consulté, ça va concerner aussi les départements d'outre-mer, c'est très important, parce que là-bas, on est encore trop dépendant du thermique, trop dépendant des
importations. On peut faire de l'éolienne.
On peut faire de l'éolien, on peut faire du solaire, on peut faire de la géothermie, c'est le cas en Corse, c'est le cas dans les territoires d'outre-mer, donc on aura aussi cette partie partie-là sur laquelle on travaille, parce que c'est important. Alors, au fond, il faut qu'on reprenne en main notre destin, qu'on investisse massivement, qu'on en profite pour développer de l'emploi, de l'expertise, qui d'ailleurs pourra s'exporter. Donc on est, j'allais dire,
donc
plus à quelques jours près.
Donc on voit que vous faites dépendre ça aussi du budget.
Ben oui,
un peu. Je vous emmène sur ce terrain-là, Roland Lescure. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Et en combien de temps? Amélie de Montchalin, elle souhaite un budget fin janvier. Et même le rapporteur à l'Assemblée nationale, le député Philippe Juvin, il parle de la première quinzaine de janvier. C'est quoi, vous, votre calendrier? Vous pensez que c'est possible en combien de temps?
Bon, j'allais dire, comme Fernand Reynaud, le plus tôt sera le mieux. Non, mais je pense qu'on n'est pas loin du but. Vous disiez dans votre introduction, pourquoi faire en janvier ce qu'on n'a pas pu faire en décembre? Ben, en décembre, on avait eu une commission mixte paritaire qui avait échoué, on avait des écarts importants entre, je dirais, la vision du Sénat et la vision parcellaire.
Et vous aviez tensé les sénateurs, qui ne l'ont pas aimé du tout.
Je leur avais rappelé que 5,3% du déficit, effectivement, c'était inacceptable, et je le répète aujourd'hui, il faut qu'on arrive à 5. Donc pour arriver à 5, à partir du budget qui sort du Sénat,
10 milliards d'euros,
il faut trouver 10 milliards. Et donc il faut trouver une partie sur les recettes, puisque le Sénat a baissé les impôts, mais
sur taxe sur l'impôt dépenses. Sur les sociétés pour les
par
grandes
exemple,
entreprises.
Par exemple, ça fait
6 milliards d'euros.
Des pistes. Bah, moi, je suis le ministre de l'économie et des finances. Donc, vous dire que déposer un amendement comme je l'ai fait, qui portait la surtaxe impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises à 6 milliards, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Je l'ai fait pourtant. Parce que je suis convaincu que ça fait partie, j'allais dire, du deal. Il faut que tout le monde contribue, et oui, que les grandes entreprises qui gagnent bien leur vie puissent contribuer. Je regrette qu'on soit rendu là, mais ça fait partie des leviers. Donc le Sénat l'a supprimé. Moi, je souhaite qu'on la rétablisse. Et ça fera partie des discussions qu'on aura dans les jours qui viennent. Alors, pour répondre à votre question, la commission des finances se réunit dès jeudi prochain. On aura un examen en séance publique à l'Assemblée nationale dès la semaine suivante. Si on arrive à se mettre d'accord dès la semaine suivante et que le rapporteur général du budget arrive à nous faire un accord, tant mieux, allons-y. Mais en tout cas, il faut avancer vite.
On vous entend, vous êtes assez optimiste, même très optimiste. Vous êtes déterminé. Mais est-ce que vous avez néanmoins des lignes rouges pour ne pas donner l'image d'un budget qui serait totalement vidé de sa crédibilité? C'est quoi vos lignes rouges?
Je pense que depuis 2 ans, on a souffert de la multiplication des lignes rouges. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, mais quand on cherche à bâtir un compromis, il faut plutôt aller chercher les lignes vertes, c'est-à-dire les lignes de convergence. Et donc les lignes de convergence, pour moi, c'est 1, 5% de déficit, pas plus. Ça, il y a un accord. 2, on ne casse pas la croissance. Et donc ce n'est pas les entreprises seules qui doivent payer l'écho. Il faut que tous les acteurs contribuent. Les entreprises, l'État, les collectivités locales, ça fait partie des débats qu'on a encore avec le Sénat. Et qu'on arrive, je dirais, à peu près, in fine, on passe de 5,4 2025 à 5% 2026, à ce que cet effort, il soit à peu près moitié-moitié entre dépenses, économie de dépenses, et recettes.
Mais quel intérêt pour les socialistes, finalement, à continuer à jouer le jeu, puisqu'ils ont fait quand même un petit refus d'obstacle avant Noël? Il n'y a pas de sucré dans ce budget pour eux. Dans le budget
politique.
De la sécurité sociale, il y avait quand même la suspension des réformes des retraites, qui était un sacré totem. Et on sait bien que voter le budget, c'est appartenir à la majorité. Donc, comment vous allez faire pour vous arrimer les socialistes sans vous désarrimer votre socle commun qui, lui-même, a avalé bien des couleuvres?
Voilà, tout ça n'est pas facile, vous l'avez dit. Le projet de loi de la Sécu a montré qu'on pouvait le faire. Moi, je suis un peu perplexe sur cette histoire de « je suis dans l'opposition, je vote pas le budget, je suis dans la majorité, je vote le budget », parce qu'il y a plein de pays aujourd'hui qui avancent sans majorité et qui arrivent à faire voter des budgets avec des gens qui, pour autant, sont dans l'opposition sur
donc
un certain
nombre de
sujets.
Donc on fait un 49-3 et l'affaire est réglée
non
pour les socialistes.
Ça, c'est le débat sur la méthode. Et il aura lieu en son temps. Mais avant de savoir quel outil on utilise, il faut savoir quel texte on vote. Parce que ce soit 49-3 ou autre, si le texte n'est pas votable, ben on n'a ni gouvernement ni budget, le gouvernement tombe et on se retrouve à la case départ. Donc il faut d'abord avancer sur le fond, c'est ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. Moi j'ai pas mal échangé informellement.
Mais les socialistes ils disent un 49-3, ça serait pas mal finalement.
Ils vous le disent peut-être quand vous les avez au téléphone, je n'ai jamais entendu Olivier Faure dire en public « moi je souhaite un 49-3 ». Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait plutôt partie d'ailleurs, je dirais des qualités, aujourd'hui, de 2 hommes, Sébastien Lecornu et Olivier Faure, qui ont décidé dès le début de dire on ne va pas au 49-3, on responsabilise les parlementaires, on avance. On a montré que c'était possible sur le budget de la Sécu. Je pense que c'est encore possible sur le budget
alors,
de l'État.
Justement, sur le fond du sujet, vous avez dit, en fait, il faut un accord global, il faut s'entendre là-dessus. Ce qu'on a beaucoup entendu pendant la discussion, c'est la quête d'une justice fiscale. Donc, il y aurait une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent sur les gros contribuables? ou alors un impôt sur la fortune, nouvelle manière, ou est-ce que pour vous, c'est absolument inenvisageable ?
Bah, je dirais que l'impôt sur le débat pardon, sur la taxe dite Zucman, il a été tranché.
D'accord, mais est-ce qu'il peut y avoir autre chose ?
Donc il y a des choses dans le budget, notamment ce qu'on appelle la contribution différentielle aux revenus, qui est quand même une taxation importante des plus hauts revenus. Il y a une taxe dite holding, alors qui n'est pas encore complètement définitive, hein, entre ce que le gouvernement
a proposé. Mais est-ce qu'il peut y avoir autre chose ?
Ben non, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le dispositif de l'entonnoir. C'est-à-dire quand vous votez un projet de loi, vous le votez en première lecture, puis en deuxième lecture, puis in fine, vous ne pouvez pas rajouter des choses qui n'ont pas été votées ou qui ont été rejetées dans la première partie de l'examen. Donc, heureusement d'ailleurs, sinon ça pourrait durer des mois et des mois, on referait les mêmes débats.
Mais donc on voit mal sur quoi peut se nouer le compromis, à vrai dire.
Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire...
Sur quel objet politique ?
Moi, j'ai échangé avec des forces dites républicaines depuis quelques jours, entre Noël et Jour de l'An. Le Premier ministre les avait consultés formellement avec Amélie de Montchalin, on a parlé à un certain nombre d'entre eux. Il y a une volonté d'aboutir. Et quand il y a une volonté, en général, il y a un chemin et on y arrive. Donc on va y arriver. Voilà, maintenant, il faut travailler, il faut que chacun mette de l'eau dans son... Vous disiez, qu'est-ce que les socialistes ont à gagner ? Qu'est-ce que la France a gagné ? Bah, c'est la stabilité politique.
Oui, mais ça, ça n'a pas changé depuis décembre, hein, c'est la même équation.
Non, mais vous savez, le temps fait son affaire. On a évidemment des échéances électorales qui arrivent, qui vont peut-être avoir...
Et il y a des retours d'électeurs, peut-être, aussi.
Mais moi, ce que j'entends, en tout cas, dans tous les contacts que j'ai avec les Françaises et les Français, c'est bon, on passe à autre chose, maintenant. Là, votez-le, ce foutu budget. Votez-le, et on passe à autre chose, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Le monde dans lequel on est, là, il va à 100 à l'heure. Alors nous, on ne peut pas rouler, je dirais, à 50 à l'heure avec une roue de secours, qui est la loi spéciale. Il faut qu'on ait un budget et qu'on avance et qu'on passe à la suite. Parce que la suite, elle est compliquée, mais elle peut être aussi enthousiasmante.
Et il y a aussi des dossiers qui sont décidément épineux. L'actualité, Roland Lescure, c'est aussi la colère agricole. Alors demain et mardi, les syndicats d'agriculteurs sont reçus à Matignon. Plusieurs sujets, par exemple les nouveaux droits de douane chinois sur les produits laitiers, ou encore la dermatose nodulaire qui continue de se répandre, et puis le Mercosur. Sur X, il y a une heure, le Premier ministre a annoncé qu'un arrêté sera pris dans les prochains jours pour suspendre l'importation de produits contenant des résidus de substances interdites en Europe. Alors ça, c'est un geste envers les agriculteurs, parce que de toute façon, le 12 janvier, le Mercosur, Bruxelles veut le signer.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'impuissance du commentaire versus la puissance de l'action. Ça, c'est d'action, et c'est assez puissant. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est qu'un des sujets du Mercosur, il y en a trois, c'est clause de sauvegarde. Si les importations massives viennent à bouleverser un marché, il faut qu'on puisse arrêter. Deux, contrôle sur place, pour s'assurer que les produits qu'on importe, d'ailleurs, respectent la réglementation. Et trois, ce qu'on appelle les clauses miroirs. Si on impose des règles à nos agriculteurs, il faut qu'elles soient imposées aussi ailleurs. Et donc, ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin, c'est qu'il y a des produits aujourd'hui, alors ils sont imprononçables, donc je ne vous les prononcerai pas.
Mais vous pouvez prononcer le nom
des produits phytosanitaires qui rentrent dans la production d'agrumes.
Voilà.
Avocats, pamplemousse, etc., qui viennent. Et ces produits-là, ils sont interdits en Europe. Ils sont interdits pour des raisons de santé publique. On ne dit pas qu'ils sont interdits parce qu'ils abîment les sols, par exemple. Parce qu'au fond, le Brésil pourrait décider d'abîmer ses sols, ça ne serait pas notre cas. Mais là, c'est vraiment des enjeux de santé publique. Donc on a des produits dangereux qu'on interdit à nos agriculteurs d'utiliser pour que nos produits soient conformes à la santé des Français, et on en importe qui ne le sont pas. Donc ce que le Premier ministre a annoncé, on a saisi l'Europe avant Noël, si on n'a pas de réponse de l'Europe très vite, on va prendre un arrêté, interdisant l'importation de ces produits. J'allais dire, vous dites c'est un cadeau aux agriculteurs.
Je dis surtout que le Mercosur va être signé le 12 janvier, Bruxelles veut le signer.
Alors, juste là-dessus...
Il n'est pas adopté
on verra. Oui, il n'est pas adopté et on vous entend répéter comme un mantra les trois points que vous souhaitez obtenir. Sauf que, sauf si vous allez me dire le contraire, jusqu'à présent, la France, elle n'a toujours pas réussi à réunir cette fameuse minorité de blocage pour éviter la ratification de ce traité. Je rappelle, c'est au moins 4 États membres représentant 35% de la population européenne. Donc ça semble vraiment... peine perdue, d'autant qu'on sait très bien que l'Allemagne, elle pousse, et elle pousse fort pour signer ce traité.
Ben, ce qu'on a vu, en tout cas avant Noël, c'est qu'on avait suffisamment de soutien pour repousser la date. Déjà.
Repousser ?
Donc, cette minorité, elle existait, au moins c'est une minorité de décalage. Bon. Mais ce décalage, il ne sert pas à rien. Il sert à s'assurer qu'on renforce les trois clauses, je les ai mentionnées, auxquelles on est sensible.
Et jusqu'à présent, ce n'est pas, les garanties.
Attention, le Parlement a voté une clause de sauvegarde. Qui est une clause de sauvegarde, elle, qui nous semble efficace. Les deux sujets qui restent sur lesquels on doit, je pense, être plus fort, et l'Europe doit nous convaincre, c'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. Est-ce qu'on impose à ceux qui nous exportent les mêmes règles que chez nous, et les contrôles. Et ça, c'est à la main de la Commission. À la Commission de nous montrer qu'elle est capable de contrôler davantage ce qui se fait.
Oui, mais ça, c'est mal parti. Est-ce que le 12 janvier, c'est ça ?
Chaque jour compte, on verra. En tout cas, la position de la France, elle reste à ce stade. Et vous savez que l'Europe, ça avance toujours de la même manière. Jusqu'à minuit moins quart, on a l'impression qu'on est bloqué. Puis à minuit moins deux, on avance.
Mais est-ce que ça veut dire que vous espérez un nouveau report de ce
traité ? Ça veut dire qu'on va continuer à insister pour que ces trois clauses importantes qui protègent nos agriculteurs, mais aussi au fond nos consommateurs, elles soient en place. Et d'ici là, on va continuer à se battre et on verra.
Roland Lescure, sur la protection des Français, on parlait d'agriculture, je voudrais vous poser une question sur l'industrie. On a l'impression qu'on court toujours après la Chine. Les Européens et les Français mettent une taxe sur les petits colis, Chine ouvre un entrepôt grand comme 100 stades de foot en Pologne. La France veut un contenu européen minimum dans les voitures, mais BYD, le premier constructeur mondial de voitures électriques, désormais va ouvrir sa première usine européenne en Hongrie au printemps. En fait, on a toujours un train de retard, on a du mal à se protéger.
En fait, c'est exactement l'inverse. Ce que vous dites de Chine, c'est qu'il, justement, il s'adapte à une réglementation auquel il ne s'attendait pas. À partir du moment où vous taxez des colis 2 euros en France...
Mais ils sont assez mobiles, hein, il faut reconnaître.
Ils sont très mobiles. Et il faut qu'on le soit aussi. Moi, ça, c'est une chose sur laquelle... Donc, on taxe des colis 2 euros en France plus 3 euros en Europe. C'est la France qui l'a obtenu dès le 1er juillet. Ça veut dire 5 euros. Et donc, si vous continuez à exporter 4 milliards de colis individuellement par la poste chinoise en France, vos colis de 3 euros, c'est la valeur moyenne des colis, hein, 3 euros. Ils vont valoir 8 euros. Et donc, c'est plus possible. Et donc, ils adaptent leur modèle. Et donc, ils disent, on va envoyer des grands paquets en Europe, mais sur ces grands paquets, ils vont payer des droits de douane. Jusqu'à présent, ils n'en payaient pas. Ils vont payer des droits de douane, donc la concurrence déloyale du fait de prix défiant toute concurrence, c'est le cas de le dire, c'est terminé. Et deux, on va les contrôler. Le problème de Chine...
On va les contrôler si on a les forces pour les contrôler.
Et exactement. Présent, et c'est l'objet de ces 2 euros plus 3 euros, c'est de mettre les moyens sur le contrôle. Donc on va continuer à contrôler. Mais là, vous avez raison, Madame Fressoz, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les acteurs auxquels on fait face sont extrêmement mobile, extrêmement rapide.
Et nous, on a surtout l'impression qu'ils ont pris tellement d'avance qu'on n'arrive plus à les rattraper.
Je pense qu'on les a rattrapés. Si vous voulez, avec l'histoire des poupées pédopornographiques et des armes de première catégorie, moi j'ai été nommé depuis 15 jours, c'est arrivé, on a réagi tout de suite. Ils ont fermé leur place de marché. On a dit c'est inacceptable. Avec mes collègues Serge Papin, Laurent Nunez, on a fait des procédures de justice. On a changé la loi, on a changé les impôts. Il faut qu'on agisse encore plus fort et plus vite. Et je veux vous dire une chose, ce qui me frappe le plus, c'est les délais de réponse numériques. C'est-à-dire qu'on a, on l'avait depuis 2 jours, une intelligence artificielle qui est capable de littéralement déshabiller les Français.
Ça, c'est Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk.
Voilà. Et donc, on a Grok qui vous déshabille. C'est évidemment interdit. On fait un article 40, c'est-à-dire qu'on dénonce à la justice, on demande à ce que tout ça soit balayé. L'ARCOM réagira sans doute... pour dire que tout ça est inacceptable, et d'ici là, Grok aura retiré son modèle, mais aura fait un impact. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Et puis j'ai Amazon qui vend des bouquins, et qui, pendant 15 jours, est capable de vous vendre des bouquins en dessous du prix unique. On réagit, on fait un article 40.
On va aller plus vite.
Évidemment. Donc voilà, le sujet, c'est pas est-ce qu'on réagit, parce que maintenant on réagit fort, c'est est-ce qu'on réagit plus vite. Et moi je souhaite, c'est un de mes travaux de cette année, avec Serge Papin, avec Anne Noénanf qui s'occupe du numérique, à ce qu'on puisse mettre en place des modèles de réaction plus rapides. Parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle à leur bénéfice ne fassent pas face à des gens comme nous, qui eux aussi l'utilisent au leur. Et à ceux des consommateurs et des ménages français.
Alors, une année utile, c'est aussi ce qu'a souhaité Emmanuel Macron dans ses vœux le 31 décembre.
Cette année doit donc être et sera une année utile. Je veillerai tout particulièrement à ce que plusieurs grands chantiers puissent aboutir. Nous verrons les premiers pas du service national pour l'engagement de nos jeunes, qui renforcera le lien entre nos armées et la nation. Nous protégerons nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et des écrans. Nous irons enfin au bout du travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité, sujet sur lequel je m'étais engagé devant vous en 2022.
On vient d'entendre Emmanuel Macron lors de ses vœux. Il promet une année utile. Alors, déjà comme l'année dernière. Et on a le sentiment quand même qu'il fait du neuf avec du vieux. Hein, les chantiers dont il nous parle, le service national volontaire, il est déjà lancé. La réglementation des réseaux sociaux, Gabriel Attal s'en était déjà emparé. La fin de vie, c'est un serpent de mer qui est sur les rails depuis avril 2024. Est-ce que c'est pas la preuve flagrante, finalement, qu'Emmanuel Macron est condamné, d'une certaine manière, à de l'immobilisme ? Et qu'en fait, on est toujours sur et le budget, les tractations de couloirs, et on change de Premier ministre, et on en remet un nouveau, et que la France, elle est immobile.
Non mais moi, j'ai été frappé, votre question, elle est pertinente, puisque c'est ce qui se raconte depuis quelques jours. Mais moi, j'ai été frappé par ça, pour deux raisons. D'abord, parce que les chantiers que vous mentionnez sont des chantiers importants. Je veux dire, protéger les enfants des réseaux sociaux, ça devient, une horreur. Ce à quoi nos enfants sont exposés de manière quotidienne, à l'extérieur de la maison, puisque tout ça est disponible en accès libre partout, au quotidien, et ça a été montré par des psychiatres, des psychologues, un effet délétère sur notre jeunesse. Donc ce qu'on est en train de faire, projet de loi à venir, discussion au Parlement, et vous avez raison, Gabriel Attal et d'autres se sont saisis de ce sujet. Ça ne devient pas tout à fait consensuel, mais c'est essentiel. Et par ailleurs, ça a des conséquences économiques. Parce que quand on parle de Thierry Breton tout à l'heure, vous imaginez bien que ceux qui portent ces réseaux sociaux sont pas très heureux que la France prenne ce genre de décision.
Le sujet, c'est comment on fait. On sait bien qu'il y a des VPN, alors c'est technique, mais ça peut être contourné. Il y a aussi la question de la solidité juridique du texte. Bref, ça a l'air très difficile. Comment est-ce que vous avez vraiment les moyens de le faire,
Moi, j'ai échangé avec les services de l'ARCOM qui disent oui, on a les moyens de le faire. On l'a fait sur le porno, là encore, on nous disait c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas de contournement possible ? Si, il y en aura peut-être toujours, mais l'essentiel quand même, et d'ailleurs les parents ont aussi un rôle à jouer là-dessus, s'ils autorisent leurs enfants à installer un VPN sur leur téléphone, j'allais dire, tout bad, c'est pas très bon.
Peut-être qu'ils ne le voient pas aussi.
Oui, mais malgré tout, enfin, on a tous un rôle à jouer, mais le rôle du législateur, c'est de protéger. Mais surtout, parce que j'avais deux réponses à votre question. Un, sur le fond, je pense que ce qu'on va faire est important. Mais deux, ceux qui disent que la France est condamnée à l'inaction dans les 18 mois qui viennent, avec le monde tel qu'on a décrit, je pense qu'il se trompe, qu'il fragilise la fonction présidentielle, en voulant fragiliser le président au passage.
Là, vous nous parlez du régalien, c'est-à-dire de ses prérogatives en termes de
mais pas
affaires étrangères, mais là, je vous parle d'affaires intérieures.
Mais d'affaires intérieures. On a un défi majeur sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est l'ennemi du siècle ou est-ce que c'est l'allié du siècle ? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que, dans nos relations avec nos consommateurs, j'allais dire, l'administration publique soit plus efficace, que les entreprises françaises s'en saisissent pour être plus puissantes, plus productives, plus compétitives.
Françoise,
on a ce choix aujourd'hui. L'impuissance du commentaire, et j'entends beaucoup de commentaires depuis le 31 décembre au soir, la puissance de l'action, on l'a cette puissance, il faut la livrer.
Vous dites agir, et en même temps, il reste très peu de temps, parce qu'il y a les élections municipales, et après, il y aura la campagne présidentielle. Et moi, j'ai eu l'impression que l'agenda présidentiel n'était pas exactement celui du Premier ministre. Pas un mot sur la décentralisation, par exemple, pas trop sur le régalien, beaucoup sur le sociétal. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire, ou est-ce que vous pensez que vous aurez le temps de tout faire d'ici l'élection présidentielle ?
En tout cas, ce que nous montre la situation politique actuelle, et l'Assemblée nationale telle qu'elle est, il faut le reconnaître, hein, extrêmement dispersée, 11 groupes parlementaires, c'est que tout ce qu'on peut faire, j'allais dire, en dehors de l'Assemblée, par du réglementaire, par de l'exécutif, on doit pouvoir le faire. C'est ce que je fais aujourd'hui sur la fameuse CTA. C'est-à-dire, je me dis, le budget, j'espère qu'il va être voté, mais en attendant, on annonce une baisse des tarifs. Donc, ça montre que quand le Premier ministre m'a mis un peu de pression pour trouver des idées, et ben, quand on a un peu de pression, on en trouve. Donc, il faut être créatif. Mais j'allais dire aussi, chacun son rôle, que le président de la République s'affirme comme évidemment, le garant des institutions. Ce qu'il a dit sur la protection des élections face aux ingérences étrangères est extrêmement important. Deux, qu'il puisse pousser des sujets sociétaux qui lui sont chers. Moi, j'avais travaillé avec lui pour pousser l'idée d'une convention citoyenne sur la fin de vie. C'est un sujet profond, c'est un sujet complexe, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on avance.
Il y aura un référendum, éventuellement, si le débat s'enlise au Sénat ?
Moi, j'espère qu'on va avancer, parce que là, franchement, j'allais dire, on en a fait une bonne partie du tour, et les Français, non seulement sont prêts, mais sont impatients. Mais sur l'international, il a un rôle, évidemment, fondamental à jouer, c'est sa prérogative. Sur le sociétal, et que j'allais dire, ensuite, il laisse le gouvernement faire aussi sa partie du travail sur des choses qui relèvent de ses prérogatives, moi, ça me semble une bonne, j'allais dire, non pas séparation des pouvoirs, mais séparation des tâches, de manière à ce qu'on soit plus efficace.
Roland Lescure, vous êtes l'invité de Questions politiques. Voici le moment où Alix Bouyaguet vous tire le portrait.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Alix, qui a remonté des archives cet extrait d'une séance à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était en 2025.
Pour décontracter le débat, la ministre nous a amené... C'est quoi ?
Alors, je crois de tradition, il fut un temps où les ministres du budget apportaient une douceur de leur contrée. Enfin, il se trouve que ma contrée est essonienne et c'est un petit plateau de charcuterie et fromage de la ferme qui est la ferme familiale.
Alors ma contrée, comme vous le savez, est un peu plus lointaine, étant élu en Amérique du Nord. Donc je vous ai apporté à chacun d'entre vous une petite bouteille de sirop d'érable qui, j'espère, amènera un peu de douceur à vos petits déjeuners des jours et des semaines qui viennent.
Donc on vient de vous entendre, hein, c'était le 14 octobre 2025 lors de votre audition devant la Commission des finances avec votre collègue Amélie de Montchalin. Vous évoquez vos liens avec le Canada où vous avez vécu, mais en 2017, vous avez alors 50 ans. Vous, le polytechnicien au parcours académique brillant, vous quittez un job en or, hein, la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous divisez votre salaire par 10 pour être candidat en marche pour les législatives dans la circonscription des Français d'Amérique du Nord. Quelle mouche vous a piqué ce jour-là ?
C'était ma crise de 50 ans à moi, on va le dire comme ça. Il y en a qui font d'autres choses. Moi, j'ai complètement changé de vie. J'ai mis un continent entre moi et ma famille, au moins pendant les 2-3 premières années de mon mandat. On était déjà dans un monde assez bouleversé à l'époque. Trump venait d'être élu la première fois. Le Brexit venait d'être voté. J'ai rejoint En Marche parmi les premiers dès avril 2016, et c'est vrai que j'ai eu envie de m'engager et d'arrêter d'être un citoyen éclairé, votant à chaque élection évidemment, et de m'engager vraiment, à la fois parce que l'appel d'Emmanuel Macron à la société civile m'a séduit, parce que sa volonté de mettre l'Europe au cœur de tout m'a convaincu, à une époque où on avait plutôt l'Europe haineuse d'un côté ou l'Europe honteuse de l'autre, et puis parce que au fond, j'avais envie d'essayer autre chose. C'est vrai que j'avais une carrière plutôt intéressante dans le monde de la finance internationale, que j'avais aussi vécu au Canada pendant une dizaine d'années, et que je me suis dit, tiens, peut-être que quelqu'un d'un peu différent, qui vient d'un peu ailleurs, peut apporter des choses différentes à la politique.
Alors, je vais un petit peu expliquer d'où vous venez. Vous avez grandi dans une cité HLM de Montreuil. Vous êtes issu d'une famille engagée à gauche, père journaliste à l'Humanité, mère déléguée CGT à la RATP. À 16 ans, vous militez même aux Jeunesses communistes. 2006, 37 ans, cette fois-ci, vous prenez votre carte au PS en soutien à Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi est-ce que vous décidez, à ce moment-là, en 2007, de choisir Macron ? Pourquoi pas plutôt Hamon, voire même Mélenchon ?
Mélenchon,
étant donné votre parcours.
Non, mais bien sûr, et puis... Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, comme disait l'autre. Moi, je suis très fier et très heureux d'avoir grandi dans une famille où les valeurs étaient importantes. Mon père était résistant et je pense que j'y ai appris beaucoup de choses. Sur les modèles et sur les solutions pour résoudre les problèmes de la France, effectivement, je considérais et je considère toujours que les solutions issues de l'extrême gauche, quelles qu'elles soient, parce que Mélenchon, communiste, c'est pas tout à fait la même chose, n'étaient pas adaptées. Jean-Luc Mélenchon, j'avais du respect pour son parcours. Je trouve que depuis une dizaine d'années, il est parti dans le décor, je vais le dire sincèrement, à la fois sur les valeurs, sur les modèles économiques évidemment, mais au-delà de ça, même sur son rapport au monde, son rapport au l'autre, sa volonté systématique d'importer quelques sujets que ce soit pour diviser les Français, donc vraiment, c'est pas ma came, comme on dit. Non mais, moi ce qui m'a plu dans la démarche d'Emmanuel Macron, et au fond, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, je continue à y croire, c'est le dépassement. C'est la capacité à dire, au fond, est-ce qu'on est capable, face à un monde en bouleversement, de rassembler les Français sur l'essentiel. Que ça vienne plutôt de la droite ou plutôt de la gauche, est-ce qu'on est capable de se rassembler sur des valeurs et sur une capacité à avoir des résultats ?
On vous entend sur le dépassement, mais tout de même, même si vous êtes un fidèle et loyal d'Emmanuel Macron, vous avez été stupéfait par la dissolution décidée en juin 2024. Il paraît que vous avez passé 3 nuits blanches à hésiter, repartir en campagne, repartir dans le privé. Qu'est-ce qui, finalement, vous a convaincu de rester en politique ?
Vous êtes bien renseigné. Non, mais c'est vrai que j'ai hésité, parce que j'ai été surpris.
Vous étiez en colère ?
Non, j'ai été surpris, effectivement. J'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais à l'époque. Maintenant, c'était il y a 18 mois, il y a prescription, on est passé à autre chose. Il faut avancer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, parce que je ne viens pas de cet univers, parce que j'ai fait d'autres choses avant, et que je ferai sans doute d'autres choses après, d'ailleurs. Je ne veux pas faire ça toute ma vie. Je m'étais dit à 50 ans, voilà, tu donnes 10 ans à la France, tu te lâches, tu fais à fond, tu donnes tout ce que tu peux pour essayer de contribuer à une transformation en profondeur, que je pense on a en partie, en tout cas, accompli. Et là, c'est vrai que sur ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de remettre l'épaule à la roue? Et vous savez ce qui m'a convaincu? C'est le risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Parce qu'à l'époque, ce risque, il était réel. J'ai été un des premiers à appeler au Front Républicain dès le soir du premier tour. Je considère qu'il est toujours réel, on y reviendra peut-être. Mais je crois à la volonté et à l'action. Et je me suis dit, tu peux pas laisser tomber à un moment. Donc, où le risque, c'est que dans 3 semaines, 4 semaines, on ait Jordan Bardella à Matignon. Très peu pour moi.
Vous restez à ses côtés. Juste un dernier mot, vous êtes, peut-être les Français ne le savent pas, hein, le demi-frère de Pierre Lescure, homme de télé, ancien patron de Canal+. Il vous donne des conseils quand vous passez à la télé, ou vous échangez avec lui?
Oui, ça lui arrive de me dire, là-dessus, t'as peut-être été un peu trop ceci, ou un peu trop cela. Moi, je vais vous dire surtout, j'ai énormément d'admiration pour lui, parce que Pierre Lescure, c'est Canal+. Canal+, j'avais une quinzaine, vingtaine d'années quand ça a été créé, et ça a été la libération de toute génération. Moi, je me souviens de cette période où on a eu les radios libres, on a eu la fête de la musique, on a eu Canal+. Et il y avait un vent de liberté dans les médias qu'il ne faut pas oublier. J'aimerais qu'on le retrouve parfois. On est dans des médias souvent un peu violents, extrêmement vindicatifs.
Vous pensez à quoi, CNews?
Y compris d'ailleurs sur des chaînes qui sont maintenant dans le groupe Canal+, qui ont, je dirais, un peu changé d'attitude. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour que tout le monde s'exprime comme il le souhaite, mais la capacité de médias, grand public, à, là encore, rassembler des gens qui ne pensent pas la même chose, nourrir le débat, on le fait aujourd'hui, challenger les uns les autres, mais créer aussi un peu de plaisir, un peu de bonheur, créer une France qui est capable de se projeter, et pas seulement de se rabougrir et de se renfermer. Moi, ça reste un très beau souvenir des années 80, et notamment de l'explosion des médias libres de l'époque, Radio Nova, Oui FM, j'en passe et des meilleurs, la fête de la musique, et oui, Canal+, ça a été un vent de fraîcheur, et pour ça, merci à ceux qui l'ont porté, notamment à Pierre Lescure.
Bon, et dans les choses qui vous enthousiasment, c'est votre carte blanche, Roland Lescure, pourquoi est-ce que vous voulez nous parler, on me dit, de l'esprit canadien?
Mais, en fait, ça recoupe un peu ce qu'on disait. Moi, il y a un peu plus d'un an, en décembre dernier, Marc Carnet est venu me voir. Je le connaissais de nos vies passées. Il était gouverneur de la Banque du Canada. Et moi, à l'époque, je travaillais au Canada, ça a été dit. Il passe me voir pour boire un café. Et il me dit, j'hésite à me présenter. Est-ce que tu penses que je devrais y aller? Je dis, évidemment que tu devrais y aller. J'ai vécu ça. Tu vas apprendre plein de choses. Il me dit, oui, mais je vais perdre. Je dis, au moins, tu vas apprendre. Un mois et demi plus tard, il était élu Premier ministre du Canada avec une majorité quasi absolue. Alors qu'il partait avec 20% d'écart dans les sondages. Ce que j'ai vu dans ce retournement spectaculaire, c'est qu'un, il n'y a jamais rien d'acquis. Je ne crois pas à la fatalité. Quand on veut, on peut. Et surtout, quand on affirme avec force des valeurs, parce qu'il n'y a pas plus canadien que Marc Carnet. Mais il a fait sa campagne en disant « Canada strong », le Canada sera fort. Et on est capable à la fois d'affirmer la force d'une nation, au fond, la force d'un peuple, en restant ouvert sur le monde et en restant rassembleur. Et je pense qu'en France, on est capable de faire ça aussi. Et je dois vous avouer, quand je suis rentré du Canada après 10 ans, j'ai eu l'impression que parfois, on avait du mal à avoir cet esprit. Moi, je suis souvent qualifié un peu d'optimiste avec un sourire.
On l'entend ce dimanche.
Mais, voyez, dans vos petits tons, là, on l'entend ce dimanche. Ben oui, oui, et je pense que de l'optimisme, ça ne nuit pas si c'est accompagné de la détermination et de la force de l'action. Parce que le pessimisme, le défaitisme, le misérabilisme, on se fait plaisir 5 minutes, mais on va pas très loin.
Mais c'est qui votre candidat en 2027 avec ce portrait robot?
Écoutez, je pense qu'il y a des candidats potentiels d'extrême qualité qui sont en train d'émerger. Mais aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la piste de décollage des candidats en question, elle sera à peu près nettoyée,
dégagée.
Et donc on verra d'ici là, mais entre-temps, on a pas mal de boulot et c'est là-dessus que je vais me concentrer.
Et vous êtes le patron de Bercy, ce qui nous emmène au grand débat de 2027, questionné par Françoise Fressos. Françoise, on parle du pouvoir d'achat.
Vous avez beaucoup parlé de projection, d'optimisme, et dans cette question-là, il y a aussi la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire la possibilité pour les Français de dire « il y a un ascenseur social pour moi ». Il y a une question aujourd'hui qui divise les experts, en tout cas personne n'a trouvé la solution. Quand un employeur verse 100 euros de salaire, le salarié en perçoit 54 euros. Il y a 50 ans, c'était 70 euros. Cela veut dire que toute augmentation de salaire coûte beaucoup plus cher à l'employeur qu'elle ne rapporte au salarié. Est-ce que vous, Roland Lescure, vous avez une solution pour essayer de réduire un peu ce gap et redonner espoir aux Français? Parce que c'est vraiment le sujet de préoccupation numéro un. Et c'est là-dessus aussi que le Rassemblement National continue à progresser.
Et si je peux me permettre, j'aime beaucoup comment vous avez posé la question. Parce que le sujet, c'est pas juste le pouvoir d'achat de la semaine prochaine, qu'est-ce que vous faites pour baisser tel impôt. C'est comment on introduit un vrai ascenseur social qui fait, quand on entre dans le marché du travail, on a des perspectives, on a des dynamiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que, du fait essentiellement de la démographie, on a de gens de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, en proportion, mais aussi du fait du chômage qui, même s'il a baissé, reste encore élevé, et du fait du mode de financement de la protection sociale qui repose quasi exclusivement sur le travail, vous avez, entre guillemets, de moins en moins de travailleurs qui payent pour en plus de monde. Et donc ça, il faut que ça change. Et donc, il faut revoir le mode de financement de la protection sociale. Et là encore, je pense que c'est plus un sujet pour 2027.
Mais c'est quoi la solution ? Est-ce que c'est de la TVA ? Est-ce que c'est de la CSG ? Est-ce que c'est autre chose complètement différent ?
Moi, je pense qu'il faut qu'on, qu'on prenne le temps du débat. Et je ne veux pas botter en touche, mais si le ministre de l'économie et des finances vous dit aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse, ça va apparaître comme une annonce de plus qui tuera le débat. Moi, je pense que ce débat, on doit avoir lieu. Et tous les outils que vous avez mentionnés doivent être sur la table. Est-ce que c'est les consommateurs qui doivent payer ? Avantage, c'est que vous taxez aussi les importateurs. Parce que quand vous consommez des produits Chine, et que vous financez, si vous financez une partie de la protection sociale par de la TVA, Chine va financer une partie de la monnaie sociale. Soit vous le faites sur le capital. Le débat sur la base de la taxation du revenu, est-ce qu'on doit faire plus de taxation sur le capital ? Donc ce débat, il doit être ouvert. Mais il ne faut pas oublier une chose. Aussi, c'est que plus on travaillera, plus on sera prospère. Et quand je dis plus on travaillera, c'est moins de chômage, c'est aussi sans doute travailler plus longtemps, débat sur les retraites, c'est être capable peut-être aussi d'avoir recours à l'immigration dans certains secteurs, parce que dans l'industrie, qui est le plus beau secteur pour bénéficier de l'ascenseur social que vous mentionnez, les directeurs d'usines qui ont commencé manutentionnaires, il y en a partout en France. Et pour ça, on a besoin 1 million de personnes pour renforcer nos capacités industrielles.
Mais là, vous
il y en
avez
a sans d'autres qui viendront
de l'étranger. Très macroéconomique. Là, ce dont je vous parle, c'est vraiment la personne qui est dans l'entreprise et qui se dit, au fond, j'arriverai pas à avoir un salaire qui me garantira à un moment d'avoir un logement et de vivre mieux que mes parents ont vécu. Et ça, c'est vraiment le sujet
qui tarot
de la
vous
société.
Vous avez tellement raison. C'est-à-dire que la personne que vous mentionnez aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille et qui, au fond, a l'impression, a raison de payer pour tout le reste. On paye pour nos enfants, c'est très bien l'école gratuite, mais on paye pour nos retraités, on paye pour la santé, et les seuls qui payent, c'est ceux qui travaillent. Il faut élargir cette base.
Mais vous voyez, le problème, c'est que le 2017, c'était la promesse de, on rompt avec les rentes, on essaye de faire de la mobilité, on remet l'ascenseur social en marche, et ça, c'est quand même un gros échec.
Alors, c'est pas un échec, parce qu'on n'a jamais créé autant d'entreprises en France. Il y a 1 million d'entreprises qui sont créées tous les ans.
Il y a beaucoup de créateurs entrepreneurs.
Mais oui, mais et alors ? Et alors que des gens saisissent de la capacité à auto-entreprendre, c'est très bien. Et on n'a jamais autant eu d'apprentis en France. On a créé de l'emploi industriel. Mais en revanche, là alors, où je vous rejoins, c'est qu'on n'a pas été assez loin. Il faut qu'on aille plus loin, puisqu'on a encore 7% de chômage.
L'héritage,
on a un sujet, mais sans doute, par exemple, sur l'héritage, en tout cas sur les gros héritages. On a un sujet, mais c'est un vrai sujet de société, sur est-ce qu'on a une capacité à avoir une vraie solidarité intergénérationnelle ? Moi, j'entends qu'il faut préserver le pouvoir d'achat des retraités. Mais quand je parle avec des retraités, qui sont pour la plupart d'entre eux des grands-parents, mais ils ont envie d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, tous ces débats-là, il faut les avoir à l'occasion de 2027. J'allais dire sans tabou. Moi, j'ai écrit un petit bouquin il y a 3 ans qui s'appelait « Totem et tabou, dépassons-les ». Je rentrais du Canada, j'avais l'impression de retrouver une France qui était incapable de parler des fonds de pension, de l'argent, de la fin de vie, des discriminations. Tous ces totems et tous ces tabous, il faut les bousculer en 2027. Il faut s'interdire aucun débat.
Ça, alors, c'était la mission d'Emmanuel Macron, excusez-moi.
Et on a commencé. Ouais. Mais évidemment, en 10 ans, on n'a pas tout fait. Et je pense que le suivant, ou la suivante, quel qu'il soit ou quel qu'il sera, il aura encore du boulot, ça je vous le confirme.
Sur l'industrie, vous dites, on crée beaucoup d'emplois industriels. Là, la désindustrialisation est en train de s'accélérer. J'ai une question précise, je ne voudrais pas finir cette émission sans la poser. Pour les salariés de Brand, qui 700 salariés qui se retrouvent en liquidation judiciaire avant Noël, à Noël, il y a eu la proposition de Thomson qui dit « je peux reprendre 150 salariés ». C'est vous qui êtes qui regardez ça.
Avec Sébastien Martin, ouais. Délégué, on va regarder ça de très près. C'est-à-dire que nous, on regarde évidemment toutes les propositions.
C'est la bonne piste ?
À ce stade, on n'a pas encore de détails suffisants pour se dire c'est solide ou pas. Je l'ai fait pendant 2 ans et demi quand j'étais à l'industrie. On est capable de sauver des boîtes. On a sauvé Duralex, on a sauvé Carlyle à Tourcoing, à 3 conditions. 1, qu'on ait un repreneur solide. 2, qu'on ait un plan d'affaires sérieux. Et 3, que les élus et les syndicats, les salariés soient associés à tout ça. À ce stade, je n'ai pas encore ces conditions. Mais si elles sont réunies, évidemment, on aidera.
Allez, c'est la fin de cette émission. On passe au vrai-faux. Des affirmations, vous me dites vrai ou faux. Mercredi, vous suivrez à la télévision les obsèques de Brigitte Bardot. Vrai ou faux?
Faux.
Ça vous agace qu'on dise qu'Amélie de Montchalin vous vole la vedette à Bercy. Vrai ou faux?
C'est pas le cas, on travaille très bien tous les deux, vrai ou faux, peu importe. Vraiment, c'est pas le sujet, ni pour elle, ni pour moi.
De plus en plus de patrons français vous disent qu'ils envisagent que le Rassemblement National gagne la présidentielle en 2027. Vrai ou faux?
Ils ne me le disent pas, mais j'entends qu'ils le disent à d'autres. Donc, possiblement vrai et dommage.
Le Front Républicain face au RN, ça ne sert plus à rien. Vrai ou faux?
Faux.
Georges Clooney naturalisé, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il va continuer à payer l'essentiel de ses impôts aux États-Unis. Vrai ou faux?
Non, faux, c'est très bien qu'ils viennent. Venez, les chercheurs, les artistes, les avocats, venez en France, on y vit bien et on y prospère bien.
Et il paye ses impôts où alors?
En fait, il doit en payer localement, puisqu'il est propriétaire local. Donc, à mon avis, il paye des impôts locaux. Je ne suis pas responsable de sa feuille d'impôt, mais à mon avis, il en paye.
Vous prenez très au sérieux ce que dit Patrick Sébastien, qui a créé son mouvement politique, ça suffit. Vrai ou faux?
Faux.
Vous utilisez régulièrement une intelligence artificielle, vrai ou faux?
Faux, mais mes équipes le font.
Il faudrait une dose de capitalisation dans notre système de retraite, vrai ou faux?
Ouais.
Roland Lescure, vous avez été l'invité de Questions Politiques. Merci à vous,
merci
un excellent
vous.
Dimanche aux auditeurs et aux téléspectateurs.